tard dans les Corbières. On fait le point en début de ce journal. L'Espagne, elle, continue de brûler. Les pires pronostics se sont réalisés selon les autorités alors qu'une trentaine de personnes sont soupçonnées d'être à l'origine des incendies. On en sait plus sur la rencontre entre Trump et Poutine en Alaska demain, retrouvailles décisives pour régler le conflit en Ukraine. Et puis en Suisse, plus que quelques heures pour trouver un accord impossible sur la pollution plastique, sujet encore plus clivant que tous les autres. Nous serons à Genève à la fin de ce journal. Des mesures exceptionnelles pour les viticulteurs de l'Aude. Annie Genevard est au chevet des vignerons sinistrés après le feu exceptionnel qui a parcouru 17 000 hectares dans les Corbières. Après avoir rencontré les élus et les producteurs, la ministre de l'Agriculture vient d'annoncer un fonds d'urgence pour les viticulteurs concernés. Bonsoir Catherine Pétillon.
Bonsoir.
Ce sera donc une enveloppe de 8 millions d'euros.
Oui, un fonds pour indemniser à la fois les pertes de récolte et les pertes de fonds, par exemple quand la vigne a brûlé ou que des bâtiments ou du matériel agricole ont été détruits. Cette aide sera complétée par un dispositif fiscal d'exonération de taxes foncières et une avance allant jusqu'à 10 000 euros par producteur pourra être versée dans les 15 jours à venir, assure la ministre de l'Agriculture. De nombreux vignerons ont tout perdu. Il y a aussi ceux qui ont échappé au feu mais dont les vendanges futures sont compromises soit par les retardateurs de flammes qui ont touché le raisin et sur une zone encore plus large par les dépôts de fumée. Annie Genevard a aussi voulu montrer qu'elle avait entendu les acteurs locaux qui allaient de longue date sur les reculs de l'agriculture dans le département.
Ce qui me frappe, c'est que partout où il y a de la déprise agricole, il peut y avoir du feu. Les pompiers me l'ont dit, là où il y a de l'agriculture, il n'y a pas de feu, ou moins de feu. Donc il faut que nous tirions tous les enseignements de ce feu pour voir où est-ce que ça a brûlé, où est-ce que ça n'a pas brûlé, ce qui a bien fait barrière, de façon à pouvoir restaurer une agriculture protectrice autour des villages.
La ministre dit souhaiter que l'Aude devienne un laboratoire du réchauffement climatique. Touché depuis longtemps par les aléas climatiques et économiques, les agriculteurs espèrent un statut spécial et des aides spécifiques pour le département sur le modèle de ce qui existe pour l'agriculture de montagne.
Catherine Pétillon, spécialiste agriculture de France Culture. Chez les viticulteurs, l'attente était donc très forte. Aujourd'hui, ils semblent satisfaits par les mesures annoncées. Jean-Marie Fabre est président des vignerons indépendants de France et lui-même viticulteur dans l'Aude.
La difficulté n'a pas été niée, la parole donnée a été respectée et préparer l'avenir sur ce territoire, c'est s'assurer que les gens continueront à être en vie économique et sans cet appui, la quasi-totalité de cette zone, des agriculteurs de cette zone étaient condamnés dans les semaines qui arrivent. La culture principale est la vigne, il y a plus de 95% sur ce territoire. Donc dans l'ensemble, tous les agriculteurs pourront bénéficier du dispositif, mais ce qui était important, c'était de mesurer quels pouvaient être les dégâts et donc les pertes directes causées aux vignobles. Et aujourd'hui, on a une fourchette qui tourne entre 1300 et 1500 hectares. Et ce fonds de 8 millions d'euros sur ces surfaces-là va permettre à ceux qui doivent passer l'année d'assumer les charges de l'année dernière et les charges qui arrivent, et à ceux qui vont pouvoir reconstituer en achetant de la vendange les volumes de production parce qu'ils ont derrière des parts de marché. Et c'est ça l'important, de ne pas avoir la triple peine, c'est-à-dire au final en plus, ne pas pouvoir produire et ne pas pouvoir fournir ces marchés parfois acquis avec des investissements financiers humains importants et donc perdre dans les années qui arrivent notre capacité commerciale.
Au septième jour de la vague de chaleur, avec la sécheresse, le risque d'incendie reste très élevé. L'Aude et la Drôme sont en rouge ce samedi. Malgré les orages de la nuit dernière, les trois quarts du pays restent en surchauffe. Le trafic des trains intercités fortement diminué à cause de la chaleur doit, lui, reprendre normalement à partir de lundi prochain. Tout pour éviter la censure. Le gouvernement se prépare à une rentrée explosive et pour tenter d'apaiser les craintes concernant le budget présenté à la rentrée, le Premier ministre veut tenter de poursuivre le dialogue avec les Français. François Bayrou relance aujourd'hui la plateforme Agora. Cet outil numérique lancé en 2023 permet d'interpeller le gouvernement sur une thématique donnée. Sécheresse, chaleur et feux de forêt en Espagne aussi. Une troisième personne est morte dans un incendie. Au total, 11 feux sont toujours en cours dans le pays. La France vient d'envoyer 2 Canadairs en renfort. Près de 11 000 habitants ont dû être évacués. Les pompiers, eux, sont épuisés. Négligence ou imprudence, actuellement une trentaine de personnes sont soupçonnées d'être à l'origine des incendies depuis le début de l'été. Mathieu de Taillac.
4 arrestations ont été annoncées aujourd'hui par la garde civile. En Castille et Léon, d'abord, Nord, en proie à de terribles incendies dans les provinces de Zamora, 40 000 hectares brûlés, à León, où le patrimoine mondial de l'humanité du désert de Las Medulas a subi les flammes, et à Avila, la province qui borde Madrid à l'ouest, trois provinces dévastées, l'équivalent de nos départements, et trois arrestations, deux pour imprudence, le troisième accusé d'avoir mis le feu de manière intentionnelle. Et à l'autre bout de la péninsule, au sud, en Andalousie, un quatrième homme a été arrêté, accusé d'avoir provoqué pas moins de 6 incendies dans la province de Malaga entre le 19 juillet et le 3 août passé. 4 arrestations donc, qui s'ajoutent aux 25 autres détentions depuis le début de l'été, le chiffre confirmé par le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, au micro de la radio RACU.
On fait attention aux origines et aux causes des incendies parce qu'un nombre important des feux sont provoqués, d'autres sont dus à des négligences et l'éducation est importante. Mais la garde civile a un service à l'avant-garde de la persécution des délits environnementaux. Si l'on identifie des responsables, tout le poids de la loi s'exercera contre eux.
Le poids du code pénal espagnol qui prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison pour les incendies provoqués mettant en danger la vie des personnes.
Mathieu de Taillat, correspondant de France Culture en Espagne. Partout dans le monde, 9 fois sur 10, l'incendie est d'origine humaine. En France, dans l'Aude, l'enquête s'oriente aujourd'hui vers la piste criminelle. Le feu pourrait avoir une cause criminelle résultant d'un acte volontaire, selon le procureur de Montpellier. Ces gestes, inconscients et parfois totalement volontaires, comment s'explique-t-il ? Savannah Ruellan a posé la question à Pierre Lamotte, psychiatre.
Le pyromane est quelqu'un qui est dans une insécurité, qui n'a pas l'estime de lui-même et qui retrouve la toute-puissance par le geste de mettre le feu. C'est quelqu'un qui a une fascination par le feu lui-même et qui existe depuis probablement son enfance. Il y a un plaisir, une excitation très importante qu'il saisit. Après, cette excitation retombe. Quelquefois, il reste sans passage à l'acte pendant longtemps. Quelquefois, il recommence parce qu'il a éprouvé quelque chose d'ineffable au spectacle de son action. Le pyromane n'est pas un malade mental, c'est quelqu'un qui a un mode de fonctionnement pathologique qui, en tout cas, qui s'apparente un peu au pervers ou au toxicomane. C'est un trouble du comportement qui peut aller avec un extérieur tout à fait banal. Il est pratiquement impossible de détecter les pyromanes parce que d'abord, ce sont des personnalités clivées, c'est-à-dire séparées en deux entre la version qui est banale et puis la version où les pulsions se déchaînent. Il est certain qu'actuellement, le côté esthétique fascinant du feu est quelque chose qui est plutôt une incitation à passer à l'acte pour le pyromane.
Et à l'autre bout de la planète, au Cachemire, ce sont des pluies torrentielles qui se sont abattues sur un village de l'Himalaya. De violentes coulées de boue ont causé la mort de 34 personnes. C'est la deuxième catastrophe liée à des inondations en Inde ce mois d'août. Sommet crucial en Alaska demain. Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontrent à 21h30 pour parler du règlement du conflit en Ukraine. Le chef de la diplomatie américaine a bon espoir que les deux présidents trouvent un accord de cessez-le-feu. À la veille de cette rencontre, le Kremlin donne plus de détails sur le déroulé de ce tête-à-tête à Moscou. Les précisions de Jean-Didier Revoin.
Il sera 11h30 à Anchorage, en Alaska, lorsque Vladimir Poutine et Donald Trump débuteront leur tête-à-tête, accompagnés seulement de leurs traducteurs. Au terme de cette phase, le nombre des participants augmentera de 5 personnes par délégation pour un déjeuner de travail. Côté russe, le chef de la diplomatie, le ministre de la Défense, le ministre des Finances, le patron du Fonds souverain et le conseiller du président Yuri Ushakov participeront à ces discussions. On peut en déduire qu'en plus de la crise ukrainienne, compte tenu des discussions menées au Kremlin avec Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, les délégations aborderont aussi la poursuite de la normalisation des relations entre Moscou et Washington, notamment au plan économique. Le Kremlin a en outre envoyé un signal positif en affirmant qu'une conférence de presse conjointe était prévue à l'issue du sommet. Un sommet dont Donald Trump estime qu'il a une chance sur quatre d'aboutir à un échec, tout en soulignant qu'une prochaine rencontre tripartite entre Kiev, Moscou et Washington serait nécessaire pour parvenir à sceller un accord sur l'Ukraine.
Et pendant ce temps-là, en Ukraine, les combats continuent sur le front. De l'aide humanitaire est envoyée du monde entier. C'est le cas en France, comme à Auriol, dans les Bouches-du-Rhône. Un camion de pompiers transformé en cabinet dentaire s'apprête à prendre le départ pour Kiev. Un convoi mené par des bénévoles toujours aussi déterminés, malgré les difficultés. Raphaël Ben Abdel Moumen.
Le moteur du camion démarre, c'est le moment de tester une dernière fois le matériel avant le grand départ.
Ça c'est la fraise, ouais. C'est le bruit qu'on aime bien quand on va chez le dentiste.
Plus qu'à prendre la route, direction l'Ukraine. Gilbert Monnier est le secrétaire de Solidarité Ukraine-Oriol et il fait partie du voyage.
Au moins jusqu'à Kiev pour remettre ce projet. Il est déjà programmé pour partir sur le front, pour aller sur la région de Kharkiv.
Ce camion, c'est le fruit de plusieurs mois de travail des bénévoles comme Christiane. Elle suit avec attention l'avancée du conflit et les difficultés de l'armée ukrainienne.
On est désespérés par rapport à la situation. On se dit qu'il faut toujours espérer avant quelque chose, mais... On est très, très, très inquiets, quoi. Mais il faut s'engager, ça, c'est sûr. Il faut lutter, il ne faut rien lâcher, quoi.
D'autant que même si une trêve est signée, le travail des humanitaires et des soignants est loin d'être terminé, selon le docteur Daniel Cohen. Il est le médecin référent de la Fédération française de sauvetage et de secourisme.
Quand on va sur le front et qu'on va ramasser des blessés, est-ce qu'on pose la question, est-ce que vous êtes russe ou ukrainien ? Non, on ramasse des blessés pour les amener et pour les soigner. Et donc, je pense que la reconstruction va être donc gigantesque et des besoins sanitaires vont être encore plus amplifiés.
Alors, tout ça attendent beaucoup demain de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine pour que ce camion soit peut-être le dernier à faire le voyage vers l'Ukraine.
Raphaël Ben Abdel Moumen. Un émissaire israélien au Soudan du Sud, la vice-ministre israélienne des Affaires étrangères en visite officielle hier dans ce petit pays d'Afrique, alors que l'armée israélienne se prépare à une opération militaire pour conquérir Gaza. Benjamin Netanyahou cherche un pays d'accueil pour les 2 millions d'habitants de l'enclave palestinienne. À Tel Aviv, Valérie Krova.
Une visite qualifiée d'historique. La vice-ministre des Affaires étrangères israélienne a rencontré le président Salva Kiir. Le plus haut niveau d'engagement d'un responsable israélien au Soudan du Sud, affirme-t-on à Djouba, la capitale. L'occasion d'évoquer de nouvelles opportunités, notamment dans l'industrie pétrolière et gazière, en échange de quoi la relocalisation de ressortissants de Gaza sur place est sans fondement, s'est empressé de souligner la diplomatie sud-soudanaise. L'agence américaine AP a pourtant eu confirmation que des pourparlers avaient été engagés sur la possibilité d'installer des camps pour les Palestiniens dans ce petit pays de 11 millions d'habitants, riche en pétrole, mais dont la population dépend en grande partie de l'aide internationale pour se nourrir. De cela, les Gazaouis en ont déjà l'habitude, si l'on devait être cynique. Selon l'article 8 du statut de Rome, que l'État hébreu n'a pas ratifié, les déplacements de population sont considérés comme des crimes de guerre.
Dans le pays frontalier au nord, le Soudan, toujours en proie à la guerre civile, subit la pire épidémie de choléra de son histoire. Au moins 40 personnes sont mortes en une semaine au Darfour et plus de 2300 patients atteints de la maladie ont été recensés. À Genève, 184 pays réunis, près de 10 jours de discussions et un traité impossible à trouver sur la pollution plastique. Les discussions reprennent dans une heure. La fin des échanges est prévue ce soir à minuit, mais les négociations s'enlisent. La centaine d'États les plus ambitieux ne sont pas parvenus à convaincre les pays pétroliers à réduire leur production de plastique. Célia Quiret, vous êtes en direct de Genève. Bonsoir.
Bonsoir Mélanie.
Et le plastique, sujet sensible et activité lucrative, c'est encore plus dur que de négocier sur le climat ou la biodiversité.
Oui, en tout cas, on peut se poser la question quand on assiste à un tel dialogue sans fin entre d'un côté les pays qui veulent réduire la pollution plastique et de l'autre les pays pétroliers qui bloquent tout pour ne pas couper le robinet, ni même en réduire le débit. À l'ONU, pour avoir un traité, la règle, c'est le consensus. Et là, c'est impossible, observe cette militante sud-africaine Marissa Naido.
On a bien vu les 2 ans et demi passés que le consensus seul ne menait à rien. Il n'a pas permis aux États de se mettre d'accord. Tous les efforts pour parvenir au consensus ont échoué. Il faut un vote à la majorité. C'est comme si on voulait interdire les cigarettes en ayant les fabricants de tabac à la même table que nous. Ça ne marche pas.
Et en effet, hier encore, les discussions ont tourné au fiasco. Ce spécialiste en diplomatie environnementale, Alexander Rankovic, pense que l'ONU a peut-être sous-estimé la difficulté du sujet.
Le sujet est difficile. C'est le pendant matériel, le plastique, de notre dépendance énergétique aux énergies fossiles. C'est l'autre face de la civilisation du pétrole, c'est partout. Si vous voulez vous battre contre la pollution plastique en mer, voilà, une majorité des gros morceaux de plastique, ça vient de la pêche. Les microplastiques, les études montrent que ça vient de l'usure des pneus, des fibres textiles, des peintures, etc. Tous ces secteurs-là, vous devez les réguler aussi.
Et en même temps, il a fallu 21 COP sur le climat pour aboutir à l'accord de Paris. Il reste une soirée seulement pour signer ou pas un traité sur le plastique. Certains négociateurs n'excluent pas ce soir de repartir de Genève sans texte, mais avec un nouveau rendez-vous.
Célia Kiré avec Christophe Papon depuis Genève. Et ce soir, Emmanuel Macron appelle tous les États présents à Genève à adopter un texte à la hauteur de l'urgence environnementale et sanitaire. Un mot de météo avec la vague de chaleur qui se poursuit demain. La vigilance orange canicule s'étend à 80 départements ce vendredi. Les températures restent élevées. Il fera 32 à Rouen, 37 à Lyon, jusqu'à 39 à Montpellier, avec des pointes à 41 degrés en Provence et dans le sud-ouest. C'est la fin de ce journal réalisé par Jean-François Braun, à la technique Raphaël Rousseau.